Bien, maintenant la question, chers frères et sœurs, de savoir quel est ce verset sadique.
En fait, il pourrait y en avoir plusieurs, parce qu'il y a quand même des choses assez épouvantables dans ce texte. Si on les isole les unes par rapport aux autres. Et c'est souvent ce qui est fait au sujet de ce verset épouvantable parmi les versets épouvantables, en tous les cas pour nos assemblées protestantes. Soyez soumis aux institutions humaines. Ce qui est parfois traduit par soyez soumis aux autorités, carrément. Le texte grec nous parle de ce qui a été créé de main d'homme. Honnêtement, est-il possible d'être protestant et d'obéir consciencieusement et scrupuleusement à cette injonction d'être soumis à toute institution humaine? Ça a quand même de quoi faire mal un peu aux gencives. Est-il seulement raisonnable, par ailleurs, d'être soumis à n'importe quel maître, comme le recommande ce texte au verset 18, indiquant qu'il faut être aussi bien soumis au maître bon et doux, ce qui après tout peut être sympathique, qu'à ceux qui sont difficiles? Traduction particulièrement euphémisante, puisqu'en grec, c'est le terme scolios. Vous savez ce qui donne la scoliose? Ce qui est tordu, un peu perverti, un peu vrillé, un peu oblique, sans franchise, quoi. Au nom de quoi? Au nom de quoi devrions-nous accepter de nous soumettre docilement à un maître tyrannique? À une institution dictatoriale? Au nom de Dieu? Au nom de notre foi? Au nom de notre foi chrétienne qui, en prônant l'amour évangélique, demanderait de la douceur en toutes choses et de s'écraser bollement face à l'injustice? Ce serait ça, la foi chrétienne dans son expression protestante? Moi, je ne crois pas, hein. Devrions-nous accepter, comme le peuple hébreu au premier livre de Samuel au chapitre 8, qu'un souverain institué sur nous prenne nos fils pour en disposer pour son armée, qu'il prenne nos filles, c'est le texte biblique qui le dit, comme parfumeuses, cuisinières et boulangères, qu'il prenne le meilleur de nos champs, de nos vignes, de nos oliviers, voyez, on est en pleine sérène, on est en première ligne, pour le donner à ses propres serviteurs. Devrions-nous accepter qu'il prenne le meilleur nous-mêmes, comme le dit également 1 Samuel 8, qu'il prenne le dixième de nos biens, et pour finir, toujours selon le prophète Samuel, qu'il nous rende esclaves? Est-ce d'abord pour cela que nous aurions été autrefois libérés d'Égypte, de la maison de servitude, pour être à nouveau esclaves? Comment un texte biblique peut-il exiger que nous nous soumettions, c'est-à-dire en grec hypotasso, que nous soyons placés sous toute forme d'institution humaine, sans exercer le moindre esprit critique, sans s'interroger le moins du monde sur les bénéfices que nous pourrions retirer d'une telle soumission? Ce qui est demandé ici, c'est une soumission aveugle. Ce n'est pas comme le fera plus tard Jean-Jacques Rousseau quand il parlera du contrat social en disant: il peut être avantageux d'abandonner quelques libertés pour en acquérir une plus grande, et de se soumettre à un pacte social pour obtenir de plus grands bénéfices que ceux que nous aurions eus en restant seuls. Comment pourrions-nous accepter de perdre les degrés de liberté, comme cela, sans contrepartie, à l'aveugle? Au nom de quoi et pour quels bénéfices? Au nom de quoi et pour quel bénéfice? Voilà ce que nous ont appris les prophètes de la Bible, qui n'ont jamais accepté sans coup férir tout ce qui faisait reculer leur liberté ou leur capacité d'être. Les prophètes de la Bible nous ont appris à poser des questions, à ne jamais accepter aveuglément des dispositions qui pourraient être contraires aux libertés individuelles, ni à notre bien-être, ni à la paix, par exemple. ce que la Bible nomme « shalom », la paix, ce pourrait être aussi la plénitude, le bien-être. Quant à la vocation protestante, rien qu'elle. Elle a consisté à ne jamais abdiquer l'esprit critique qui nous pousse à nous interroger sur le bien fondé d'un pouvoir, d'une institution, d'un gouvernement. Là où certains apprendraient à avaler consciencieusement et à trouver doux le poison de la servitude, en principe, nous apprenons la résistance active à toute forme de confiscation de notre liberté, quand celle-ci se fait indépendamment de notre volonté. Là où certains se résigneraient à ce qu'un pouvoir violent et menteur prenne le contrôle de notre vie, nous apprenons qu'un pouvoir violent, un pouvoir scoliosé, ne peut prendre le contrôle d'un peuple, et c'est là que le bât blesse. Un pouvoir violent, un pouvoir scoliosé ne peut prendre le pouvoir qu'à la condition qu'il y ait un peuple lâche et crédule. C'est ce que nous rappelle Étienne de la Boétie. Aucun pouvoir n'est assez puissant, ni assez violent, s'il a en face de lui des personnes courageuses, qui lui résistent. Et aucun pouvoir n'est assez menteur, s'il a en face de lui des personnes qui le critiquent. Voilà ce que dit Étienne de la Boétie dans son discours sur la servitude volontaire. Je reviens à notre verset. Si on le prend à la lettre, soyez soumis à toute institution humaine. Prendre la lettre sur ce seul verset, ce texte attribué à Pierre, c'est renoncer à cet effort inlassable des auteurs bibliques pour nous libérer de ce penchant naturel qui consiste à se laisser assujettir, à devenir esclave. Et comme le dit par ailleurs la Boétie, un peuple, dès lors qu'il est assujetti, dès lors qu'il a renoncé à exercer son esprit critique, je cite, « il sert si franchement et tant volontiers qu'on dirait à nous voir non pas qu'il a perdu sa liberté, mais qu'il a gagné sa servitude. » Il est parfois des situations où on n'a pas l'impression que les gens ont perdu leur liberté, on a carrément l'impression qu'ils ont gagné leur esclavage et qu'ils en sont heureux. Eh bien, ça, c'est épouvantable. Ça, c'est péché. Péché, 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 hein. Pas simplement vénial. Autrement dit, là où certains ne souhaitent pas autre chose que de gagner leur servitude, et ce faisant, ils imaginent gagner leur tranquillité, en fait, leur sécurité, eh bien, l'Évangile propose une alternative. Une alternative qui consiste à exercer sa responsabilité individuelle sans relâche et par conséquent à ne laisser personne d'autre que nous, en dernier lieu, savoir ce qui est bon pour nous-mêmes. Pas d'ingérence en quelque sorte. Alors que faire de ce passage biblique? Devrions-nous arracher la page de cette Bible? Ou alors, parce qu'on n'aime pas trop abîmer les livres, se contenter de sauter par-dessus ce chapitre, d'éviter tranquillement. D'ailleurs, on ne prêche pas souvent dessus en général. Eh bien, vous voyez, toutes ces manières de faire relèveraient du révisionnisme. Ce serait en fait tricher avec l'histoire et tricher avec notre propre patrimoine. Or, il n'est ni bon ni salutaire de faire comme si l'histoire n'avait pas eu lieu et comme si ces textes n'avaient pas été écrits. Et en fait, ce serait comme demander, par exemple, que le Coran soit réécrit pour qu'il corresponde mieux à l'ère du temps. Accepterons-nous de réécrire la Bible? Mais non, parce que sinon, elle ne serait plus témoin de l'altérité. Et quand on commence à réécrire l'histoire, quand on commence à réécrire le patrimoine dans lequel nous puisons les ressources nécessaires pour comprendre le monde, au fond,
nous ne comprenons plus grand-chose d'autre que ce que nous aimons. Or, ce que nous aimons ne suffit pas à donner du sens à la vie. Pour en revenir à nous, chrétiens, affrontés à des textes problématiques comme celui-ci, manifestement contraire à ce que nous comprenons par ailleurs d'autres passages bibliques, et qui a été confirmé maintes fois par l'histoire. Je veux dire que l'histoire nous a appris à ne pas nous soumettre aux autorités de façon aveugle. On pense aux persécutions chrétiennes de l'Antiquité, ou de nos jours, dans des pays où la liberté religieuse n'est pas vraiment inscrite dans le droit. On pense aussi aux régimes dictatoriaux, qui ont écrasé les individus et les peuples. Mais on pense aussi à toutes les familles, aux associations, aux entreprises, aux groupes d'amis, où des prises de pouvoir par quelques-uns, mal intentionnés, ont conduit parfois à des drames humains irréparables. On ne peut pas se soumettre aveuglément à toutes ces situations-là. Et bien, pour en revenir à nous, que faire de notre chapitre embarrassant? Ça, c'est la question que me posait au catéchumène. Quand on est un peu enquiquiné avec un tel texte, alors peut-être que vous n'étiez pas enquiquiné, peut-être que vous trouvez ça bien de se soumettre aux autorités. Mais quand on a un texte biblique embarrassant, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait ce que ne font jamais les catéchumènes. On le lit, on le travaille et on l'interprète. Et plutôt que de regarder le plafond, de regarder le pasteur, on prend le texte, on se le coltine. Et on le fait causer. Et on l'interprète jusqu'à ce que ça fasse sens. Et tant que ça ne fait pas sens, et bien on continue à le travailler. On le lave. Alors relisons ce passage. Relisons ce passage pour y trouver des aspects positifs, mais surtout qui fassent sens. Et qui nous aide à mieux appréhender notre vie et à mieux exercer notre sens des responsabilités. Trois points. Trois points que je relève dans ce texte. Le premier point, c'est que toute attitude humaine devrait se fonder en Dieu. C'est le verset 15. C'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des gens, en grec, sans humilité. Les orgueilleux, les insensés, comme c'est traduit par Louis II. Cela signifie qu'une servitude, une soumission, ne devrait jamais s'envisager sans que ce que nous vivions soit vécu face à Dieu. Alors, pour le dire de manière non théologique, cela veut dire que notre façon d'être, les institutions que nous élaborons ou que nous soutenons, doivent se penser non pas en fonction d'un intérêt particulier, en fonction du plaisir que cela peut nous procurer, mais en fonction de l'intérêt général. Autrement dit, on ne doit pas soutenir un gouvernement parce qu'il flatte nos intérêts, parce qu'il a une politique économique qui correspond à nos besoins, mais parce que l'intérêt général est particulièrement bien pris en charge et assumé. L'ignorance des gens sans humilité est justement cet orgueil démesuré qui consiste à penser que tout doit s'organiser en fonction de soi, autour de soi. Or, nous ne sommes pas le centre du monde. Nous ne sommes pas le centre de gravité de l'univers. Le fondement en Dieu, c'est une façon théologique de dire qu'il faut relativiser toute prétention humaine à être le centre. Ou le sommet, à être une fin en soi. Dire que notre fondement est en Dieu signifie qu'il n'est pas en nous, que nous ne sommes pas autofondés. Et c'est à partir de ce critère que le théologien Karl Barth a organisé sa résistance face au nazisme, par exemple. Un pouvoir politique qui se comprenait comme autofondé et comme étant la réponse messianique à une situation historique. Fonder en Dieu, premier point. Deuxième point que soulève ce texte, c'est que notre soumission à une institution humaine ne devrait jamais se faire aux dépens de notre liberté, ni de la liberté de qui que ce soit. On peut toujours faire en sorte que notre liberté soit bien préservée, mais alors pour les autres,
exemple pour moi. C'est un homme libre, dit le texte. C'est un homme libre, sans faire de la liberté une manière de masquer le mal ou les difficultés qu'il s'agit de se comporter. Verset 16. Dans l'esprit du rédacteur, cela indique que la soumission à une institution ne devrait jamais être le sacrifice de quelque liberté que ce soit. Ou alors, pour atteindre une liberté encore plus grande, ce que je disais tout à l'heure avec l'exemple de Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. La soumission n'a de sens en christianisme que dans la mesure où cela nous permet de pouvoir réaliser nos projets de manière plus juste ou plus rapide que ce que nous aurions pu faire naturellement, ou d'atteindre des objectifs encore supérieurs à ce que nous avions projeté. C'est un homme libre que nous sommes appelés à vivre et non tel des pantins aux mains de quelques agitateurs. Et cela est possible justement en vertu du point précédent. Parce que nous sommes fondés en Dieu, parce que nous sommes face à Dieu, coram Deo, comme on disait au temps de Luther, nos critères ne dépendent pas de l'air du temps. C'est en prenant conscience que notre véritable identité est en Dieu que nous sommes libres de vivre sans crainte de nous perdre. Autrement dit, parce que notre identité ne dépend pas de nos diplômes, du montant que nous avons à la banque, de notre statut social, de la profession que nous occupons, de la place dans le temple que nous avons, eh bien nous sommes libres de pouvoir agir parce que ce que nous ferons n'aura pas de conséquences sur ce que nous sommes. Enfin, troisième point, troisième critère que propose ce texte biblique, l'amour universel, au verset 17. Honorer tout le monde, sans exception, sans exclusive, sans discrimination. Honorer tout le monde. Aimez vos frères, qui vous sont désignés par Dieu et non par votre bon désir. Honorer tout le monde. Vous voyez, l'amour universel a ceci d'intéressant qu'elle nous évite de jouer les uns contre les autres. Pas l'histoire de préférence nationale, de préférence communautaire. Honorer tout le monde, de manière égale, en quelque sorte. Eh bien, l'amour universel nous permet de préserver l'intérêt général qui garantit l'égalité de tous, devant tous. C'est la raison pour laquelle une action sociale dans cette perspective ne peut pas concerner simplement ceux qui répondraient à des critères communautaire, enfin, disons les choses telles qu'elles sont, on ne va pas imaginer que l'entraide protestante n'aide que les protestants. Je dis ça, sachant très bien qu'une minorité parmi vous imagine que c'est comme ça que les choses devraient se passer. Je vous ai déjà parlé de ce temple protestant où, à l'entrée, il y avait deux troncs. Un tronc pour les pauvres et un tronc pour les pauvres protestants. Et bien, voyez-vous, ce texte dit que ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent dans la perspective évangélique. À côté de ce verset un peu satanique, il y a cette idée selon laquelle l'amour est universel et ne concerne pas simplement une catégorie qui serait la catégorie à laquelle nous appartenons. Et ce texte nous dit que tout cela a été particulièrement incarné par Jésus. Au fond, si parfois nous hésitons, si nous pensons que ce n'est pas possible, regardons un peu du côté de l'histoire de Jésus. Cette servitude volontaire de Jésus indique comment on peut comprendre cet appel à la soumission aux institutions humaines. Puisque Jésus a lui-même été victime d'institutions particulièrement pourries jusqu'à la moelle, particulièrement scoliosées, et qu'il s'y est manifestement soumis à sa manière. Il s'y est soumis pour manifester un amour universel, y compris envers ses ennemis. Il aurait très bien pu les défier. Et c'est ce que dit d'ailleurs l'évangile de Matthieu au chapitre 26. Au moment où il se fait arrêter, il y a Pierre, justement, qui fait le malin, qui dit ça ne va pas se passer comme ça. Clac, l'oreille d'un serviteur est coupée. Et Jésus lui dit du calme. Du calme. On aurait très bien pu imaginer que le Père Céleste envoie une armée d'anges. Mais pour quel bien? Pour que ça finisse dans un bain de sang. Jésus a considéré qu'il y avait une responsabilité à exercer plus grande que celle de sauver sa peau. Cette responsabilité, c'était de sauver ses amis et ses ennemis d'un véritable bain de sang. De même, Jésus a fondé son action en Dieu, non seulement en s'interrogeant personnellement, mais aussi en s'interrogeant devant Dieu sur les suites à donner à sa vie. Là aussi, dans l'évangile de Matthieu, un peu avant l'arrestation, dans le jardin des Oliviers, quand il dit « Moi, j'aimerais autant que je puisse éviter de boire la coupe. Toutefois, ta volonté est non la mienne. L'intérêt général plutôt que l'intérêt particulier. » Et puis, il le fait aussi face à Ponce Pilate, dans l'évangile de Jean cette fois. Quand, dans la dispute, il dit finalement, tu sais, tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'était donné d'en haut. Autrement dit, prends conscience que tu as une responsabilité supérieure à ta seule lettre de mission politique. Et c'est à partir de ce moment-là que Pilate d'ailleurs cherche à libérer Jésus. Parce qu'il se rend compte que condamner Jésus, c'est en fait rentrer dans un jeu politique qui n'est pas très honorable. Il n'est donc aucune soumission qui nous soit demandée et qui consisterait à prendre le joug de la servitude. Disons-le avec Benjamin Constant. Il écrit ceci. La liberté politique, soumettant à tous les citoyens, sans exception, l'examen et l'étude de leurs intérêts, les plus sacrés, agrandit leur esprit, anoblit leur pensée, établit entre tous une sorte d'égalité intellectuelle qui fait la gloire et la puissance d'un peuple. Pour Benjamin Constant, il ne peut y avoir de moment où nous mettons notre intelligence, notre esprit critique en veilleuse. Et c'est au contraire l'honneur d'une nation de laisser le peuple exercer son esprit critique, d'exercer sa capacité d'analyse, d'exercer, quand c'est nécessaire, sa capacité de résistance à l'injustice ou à ce que nous estimons être porteurs d'injustice. Se soumettre librement à une institution qui travaille pour que chacun puisse accéder à l'étendue de ses capacités, c'est pouvoir en bénéficier soi-même. Quel est le problème des régimes dictatoriaux? Ce n'est pas tant le mode de gouvernance que le fait que cela restreint notre capacité d'initiative, notre intelligence collective, notre capacité à aimer. Au fond, c'est un pays dont les capacités d'être se réduisent comme peau de chagrin. Et voilà comment s'achève ce passage, avec cette image un peu curieuse de retourner vers le berger. Retourner vers le berger, dans la Bible, c'est aller vers celui qui est capable de nous mener vers le vert pâturage, les eaux paisibles, les sentiers de la justice, c'est le psaume 23. Reconnaître en lui le gardien de notre âme, celui qui restaure notre âme, c'est celui qui nous rend capable, justement, de ne pas vivre sous tutelle. L'âme, ce n'est pas un petit bout de Dieu quelque part en nous. L'âme, c'est notre capacité à faire face à la vie et à être tendue vers l'éternel. C'est-à-dire à avoir en face de nous autre chose que nos seuls intérêts particuliers. Avoir cette capacité à être tendue vers un horizon qui nous dépasse largement. L'intérêt général dont je parlais tout à l'heure, mais aussi l'espérance dont parle la Bible. Eh bien, vous voyez, selon tous ces critères, finalement, on comprend mieux ce passage biblique, où il n'est pas question de se mettre à genoux, il n'est pas question de subir, mais il est question d'adhérer à une manière plus grande et plus ambitieuse de penser la vie.